Très bon réveil, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le président vénézuélien contesté Nicolas Maduro serait prêt à discuter avec l'opposition sous l'égide de médiateurs internationaux. C'est en tout cas ce qu'il affirme ce matin à une agence de presse russe. Nous irons à Caracas où les opposants justement se préparent à une journée de manifestation.
Le dernier rebondissement en date du Brexit, c'est le vote hier au Parlement britannique de l'amendement Brady, un amendement qui propose d'accepter l'accord de Brexit si le sujet de la frontière irlandaise peut être renégocié. Nous irons à Belfast.
Où on sont les discussions entre les États-Unis et les talibans sur le processus de paix en Afghanistan. Cela avance et cela avance bien selon les négociateurs américains. Analyse à venir de Nabila Hamel.
Et puis en France, l'INSEE annonce de mauvais chiffres de croissance pour l'année 2018 et pourtant le nombre de créations d'entreprises n'a cessé d'augmenter l'année dernière.
Enfin, nous reviendrons sur le devenir du journal L'Humanité. Il est en cessation de paiement et souhaite éviter la liquidation judiciaire. C'est peut-être l'amorce d'une transition politique, même si l'information est à prendre avec des pincettes. Au Venezuela, selon l'agence de presse russe RIA, le président Nicolas Maduro déclare être disposé à mener des pourparlers avec l'opposition sous l'égide de médiateurs internationaux et il pourrait même organiser des élections législatives anticipées. Je suis prête à m'asseoir pour discuter pour le bien, la paix et le futur du pays, aurait affirmé le dirigeant socialiste, alors que se prépare dans le pays une journée test pour l'opposition qui appelle à manifester, une main tendue qui arrive un peu par surprise. Benjamin Delisle, vous êtes le correspondant de France Culture à Caracas.
Ce n'est pas le premier appel au dialogue du chef d'État, il avait déjà fait un appel à Juan Guaido pour une rencontre vendredi dernier. Et c'est assez étonnant parce qu'hier le régime a donné le signe d'un durcissement vis-à-vis de l'opposant. Le procureur général Tarek William Saab a demandé au tribunal suprême de justice d'ouvrir une enquête préliminaire contre le président de l'Assemblée nationale. Le procureur général dit avoir demandé au juge 3 mesures préventives, l'interdiction de sortir du territoire pour Juan Guaido, l'interdiction de céder ses biens et la fermeture de ses comptes bancaires. Cela intervient au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines, mais aussi de l'annonce par Juan Guaido qu'il prenait possession de tous les actifs vénézuéliens à l'étranger. La menace d'une arrestation pesait sur l'opposant depuis une semaine, depuis sa proclamation comme président par intérim. Elle s'est précisée un peu plus hier. L'intéressé a rapidement répondu alors qu'il se trouvait à l'Assemblée nationale. À part une menace de plus contre moi, le Parlement et l'opposition, rien de neuf, a-t-il assuré.
Benjamin Delisle, merci. Pour l'instant, la manifestation des opposants à l'appel du président autoproclamé Juan Guaido est maintenue. Elle vise notamment à persuader les militaires de passer dans le camp de l'opposition. Les anti-Maduro se préparent donc. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Sacha Coleman.
Georges a la cinquantaine souriante, il nous reçoit chez lui dans un immeuble hyper sécurisé du quartier de Los Dos Caminos. Mais ce mercredi, il sera dans la rue avec un scénario bien particulier. Il va partir travailler, mais il a décidé de s'arrêter là où il sera à midi pile. Il sera au volant de sa voiture, il s'arrêtera et ouvrira le capot pour faire croire qu'il est en paix. Car c'est l'idée de l'opposition d'arrêter la vie pendant 2 heures partout au Venezuela, 2 heures de paralysie au nom de la liberté. Parce qu'ici, explique Georges, nous ne sommes pas libres. On est prisonniers d'une dictature, mais pas seulement, du trafic de drogue. Ils sont corrompus et nous oppressent. Avec leurs armes, ils nous briment. Et quand on demande à Georges s'il n'a pas peur que les manifestations tournent mal et de mourir, non, à son âge, il n'a pas peur. Il en a vu d'autres. Il a reçu du gaz lacrymogène. Et ici, chez lui, les militaires sont même venus frapper à sa porte pour le chercher. Mais il n'a pas ouvert. Georges manifestera ce mercredi et c'est sa femme Trina qui lui communiquera au fur et à mesure par téléphone les endroits à éviter.
Sacha Coleman, manœuvre dilatoire ou coup de poker réussi. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'hier soir, Theresa May a obtenu le soutien d'une majorité de députés britanniques pour aller renégocier en leur nom le Brexit sur le sujet qui fâche, le backstop, c'est-à-dire le rétablissement pour un temps d'une frontière entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande qui souhaite, elle, rester dans l'Union européenne. Pour Bruxelles, il n'est pas question de renégociation, c'est juste une perte de temps, mais pour Theresa May, c'est le retour du soutien politique dans son propre camp, un soutien obtenu via l'amendement d'un député conservateur, Graham Brady, qui remet au cœur du Brexit la question nord-irlandaise à Belfast. Le correspondant de France Culture, Éric Biegala.
Si l'amendement Brady, qui demande la réouverture de la négociation avec l'Europe pour permettre des arrangements alternatifs pour l'Irlande du Nord, a été approuvé hier, c'est notamment grâce aux voix des 10 députés DUP, le Parti démocrate unioniste nord-irlandais. Son leader aux communes, Nigel Dodds, s'en félicitait d'ailleurs dans la foulée. Pour lui, cette majorité indique le sens que devrait prendre tout accord avec l'Union européenne s'il devait être approuvé aux communes. And we will work with the Prime Minister to deliver the right deal for the United Kingdom. Les arrangements alternatifs pour l'Irlande du Nord visent en fait l'élimination du backstop de l'accord. Ce dispositif demandait aux Nord-Irlandais d'appliquer certaines règles européennes pendant que le reste du Royaume-Uni s'en affranchissait. Lee Reynolds est le directeur politique du DUP. On peut très bien signer un accord amendé avec l'Europe, explique-t-il, et tout tourne autour de cette histoire de backstop. Theresa May a donc reçu de sa majorité le mandat de renégocier l'accord de retrait, essentiellement pour en extraire ce dispositif de backstop. On a le choix, dit encore Lee Reynolds, entre renégocier l'accord ou sortir de l'Union sans accord. Sauf que les communes se sont également hier soir prononcées majoritairement pour écarter par principe toute sortie de l'Union sans accord.
Éric Biegala, côté européen, le porte-parole du président du Conseil européen a immédiatement redit son opposition à toute renégociation. Theresa May dispose de 15 jours encore pour revenir à Bruxelles et clarifier sa position. Une manifestation contre le verdict de la Cour suprême du Pakistan, un parti musulman extrémiste a appelé donc à manifester aujourd'hui contre l'acquittement définitif de la chrétienne Asia Bibi, toujours coincée dans son pays depuis que cette même cour l'a libérée. C'est le même parti qui avait déjà bloqué le pays 3 jours durant après l'annonce, fin octobre, de son acquittement. Elle avait été condamnée à mort pour blasphème. Elles étaient passées sous les radars, mais les discussions entre les talibans et les États-Unis sur l'Afghanistan continuent au Qatar, où elles ont repris depuis quelques jours. Hier, l'émissaire américain pour l'Afghanistan s'est félicité de leurs avancées à ces discussions sur des questions, dit-il, très importantes. Les Américains, on le rappelle, souhaitent retirer au plus vite leurs troupes du terrain afghan. Ils se montrent donc très optimistes sur ces pourparlers. Or, rien n'indique que la paix en Afghanistan soit tout à fait à portée de calendrier. Les précisions de Nabila Hamel.
Pour le moment, un seul impératif semble répondre à ce nouvel intérêt de la diplomatie américaine pour les talibans, la volonté affichée par Donald Trump de faire partir la moitié des 14 000 soldats américains présents en Afghanistan. Des discussions informelles et discrètes entre l'administration Trump et des membres de la représentation officielle des talibans à Doha ont déjà eu lieu cet été. Cette fois, après un nouveau round de négociations de 6 jours dans la capitale qatari, Zalmay Khalilzad a assuré être parvenu à une ébauche d'accord de paix sur quelques questions très importante. Le monsieur Afghanistan de la Maison-Blanche mentionne l'engagement des talibans à éviter que le pays ne serve de base à des groupes extrémistes, des talibans qui auraient donc promis de freiner l'influence d'Al-Qaïda et du groupe État islamique sur place. S'il s'agit déjà d'un progrès significatif aux yeux de Washington, il reste cette question capitale pour le retour de la paix dans le pays, jusqu'où les talibans sont prêts à aller sans se contredire, eux qui avaient fait du retrait américain un préalable et qui refuse toujours de négocier avec le pouvoir central à Kaboul. Des doutes exprimés notamment par Laurel Miller. Pour cette ancienne émissaire américaine pour l'Afghanistan et le Pakistan, il faudra voir si les talibans donneront cette fois de vrais gages de sérieux ou si le changement vient seulement des États-Unis qui veulent partir et sont à la recherche d'un moyen d'y parvenir, ce qui, à ses yeux, fragiliserait le gouvernement d'Ashraf Ghani, pousserait l'Iran, la Russie et la Chine à aller soutenir leurs alliés traditionnels en Afghanistan et intensifierait la guerre civile.
Nabila Hamel.
8h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin en France. L'actualité, c'est celle de plusieurs chiffres dévoilés hier et ce matin par l'INSEE, celui de la croissance française d'abord, réévaluée à la baisse pour 2018.
Oui, une croissance en nette baisse, même par rapport à l'année 2017, dans un contexte de tension sur l'économie mondiale et d'inquiétude quant à l'impact l'impact du mouvement des Gilets jaunes. La consommation patine et le chômage peine à baisser du côté du PIB, donc rien de très optimiste. Hier, d'autres chiffres ont été publiés, toujours par l'INSEE, qui sont meilleurs. Cela, quoique tout dépend de la façon dont on les analyse, le chiffre des créations d'entreprises pour 2018, 691 000 structures ont été créées l'année dernière en France, une hausse de 17% par rapport à l'année précédente, des entreprises qui de plus en plus ne comptent qu'une seule personne, Ilan Malka.
Les créateurs d'entreprises individuelles sont effectivement de plus en plus nombreux. Ils sont jeunes, ils ont en moyenne 36 ans. 4 sur 10 d'entre eux sont des femmes. Parmi les secteurs qui s'envolent, celui des transports et de l'entreposage. C'est tout ce qui concerne par exemple la livraison à domicile. Plus 68%. Autre secteur en forte progression, celui des activités scientifiques et techniques. Ce sont par exemple les conseils de gestion. Plus 18% de création. Au sein des entreprises individuelles, il y a un statut qui marche particulièrement bien. C'est celui du micro-entrepreneur qui a remplacé il y a 3 ans l'auto-entrepreneur. Plus 28%. Un succès qui, selon l'INSEE, s'explique par la hausse des seuils permettant d'accéder à ce statut et à son régime fiscal avantageux. Depuis janvier 2018, le chiffre d'affaires maximal du statut du micro-entrepreneur est quasiment le double de celui qui était exigé auparavant. Forcément, cela attire des candidats. Alors, tous ces bons chiffres sont-ils vraiment synonymes de dynamisme et de rentrée d'argent? Là, c'est plus compliqué. Selon l'INSEE toujours, 40% des micro-entreprises n'ont absolument aucune activité dans les 2 années qui suivent leur création. Par ailleurs, selon une étude de Pôle emploi qui date d'octobre dernier, les demandeurs d'emploi ont beau être séduits massivement par la micro-entreprise, ils sont 1 sur 2 à ne pas gagner plus du SMIC après avoir fondé leur boîte, même si ce revenu a tendance à s'améliorer au fil du temps.
Ilan Malka, et pour préciser le chiffre de la croissance donné par l'INSEE ce matin pour 2018, il est estimé donc à 1,5% contre 2,3% en 2017. L'actualité politique, elle tourne autour des élections européennes dont les candidats et les listes se précisent. Hier, c'était la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, qui était approuvé officiellement par la droite, tandis que le regroupement de personnalités Place Publique tentait à Paris de rassembler à gauche. Du côté des listes de Gilets jaunes, c'est un peu confus. L'un des meneurs niçois de la contestation annonce sa volonté de présenter une liste apolitique et asyndicale baptisée Union Jaune, alors que la liste Gilets jaunes, menée par Ingrid Levavasseur, a elle bien du mal à se constituer. Elle a déjà perdu 2 de ses membres, le directeur de sa campagne, Aïk Chahinian, et Marc Doyer. Rosalie Lafarge.
Ils se sont donné pour objectif de trouver 70 candidats. Ils commencent par en perdre 2. Les Gilets jaunes emmenés par Ingrid Levavasseur ont manifestement du mal à convaincre. Ça se sent notamment sur les réseaux sociaux. Accusé de trahison dans certains des commentaires les plus polis, Aïk Chahinian, désormais ex-directeur de campagne, explique avoir besoin de prendre du recul. Il évoque pêle-mêle la blessure de Jérôme Rodriguez samedi à Paris, l'appel à la grève générale illimitée, les déceptions évidentes qui vont suivre le grand débat, ce sont ses mots. Tout cela le fait douter, même s'il promet de ne pas lâcher le combat. Pour Marc Doyer, c'est autre chose. Lui, c'est son passé de marcheur qui inquiète, irrite et surtout lui vaut des menaces de mort. Celui qui se présente comme un déçu d'Emmanuel Macron refuse de céder à ces menaces mais justifie son retrait par la volonté de ne pas nuire au reste de la liste. Cette liste, elle connaît donc 2 défections en à peine 5 jours. C'est lourd, surtout quand on n'est qu'une petite dizaine. Mais pour plusieurs spécialistes de la vie politique, c'était prévisible. Les Gilets jaunes ne parlent pas d'une seule et même voix. Cela se remarque depuis le début de la contestation. D'où la difficulté d'accepter une représentation. Pour une partie d'entre eux, le simple fait de se lancer en politique pose problème, c'est rejoindre le dénoncé système. Pour d'autres, c'est d'avoir été adoubé par quasiment toute la sphère politique qui dérange. Pour d'autres encore, constituer une liste aux européennes, c'est servir la soupe à La République En Marche et donc Emmanuel Macron, en faisant perdre des voix aux autres partis.
Rosalie Lafarge, l'avenir de l'humanité, le journal, se joue aujourd'hui au tribunal de commerce de Bobigny. Le quotidien communiste fondé en 1904 par Jean Jaurès s'est déclaré en cessation de paiement. La direction a demandé à bénéficier d'un plan de redressement judiciaire avec poursuite de l'activité pour éviter la liquidation. Le journal n'a vendu que 32 724 exemplaires par jour l'année dernière. Audrey Dumas.
La grande majorité. La grande majorité de ces ventes se fait par abonnement. Et même si la direction affirme que les ventes au kiosque progressent ces deux derniers mois, elle appelle l'État à augmenter son dispositif d'aide au quotidien à faibles ressources publicitaires. Dispositif qui chute depuis fin 2015. Selon le directeur du journal, l'Humanité aurait ainsi perdu un peu plus d'un million d'euros et aucune banque n'aurait voulu s'engager à ses côtés. Le quotidien appelle donc ses lecteurs à la mobilisation générale, collecte de fonds, débats, campagnes, toutes les initiatives sont les bienvenues. Ce n'est pas la première fois que le journal se retrouve en grande difficulté financière. En 2008, l'Humanité lance sa première souscription populaire alors même qu'il tente de vendre son siège historique de Saint-Denis. L'État rachète finalement l'immeuble en 2010, mais le quotidien ne parvient pas à se relever réellement et cette première souscription ne sera pas la dernière. En 2014, 2015 puis 2016, l'Humanité, qui rappelle qu'il ne peut bénéficier du soutien financier des grands groupes, lance un nouvel appel à la générosité des lecteurs. En juillet 2017, le journal annonce finalement la bonne nouvelle. Les résultats comptables sont positifs, mais il faut continuer les efforts. Le journal relance notamment une campagne de dons et de souscriptions. Ce n'est visiblement pas suffisant. Cette fois, la direction place symboliquement l'Humanité sous protection populaire et citoyenne.
Audrey Dumain, le temps de ce mercredi pour finir, la neige va continuer de tomber du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, du vent sur la côte ouest, un temps instable qui va progresser vers les régions du nord et du centre cet après-midi, ciel plus lumineux sur la Méditerranée. Les températures comptaient de moins 5 à 7 degrés de l'intérieur vers les côtes ce matin, de 1 à 11 degrés cet après-midi du nord au sud.